تصور روحك لين عمرك 18 سنة ما عندك الجنسية، تصور تعيش العشر سنين الأولى من حياتك في مخيم لاجئين، ما تعرفش وقتاش تخرج منه ولا وقتاش ترجع لك أرضك. تصور بعد ما يوصل عمرك 18 سنة وتاخذ الجنسية، تاخذ جنسية أوروبية في بلاد أقل ما يتقال عليها أنها غير مناصرة لقضيتك، وتكمل المعركة جوسكوبو وتترشح للانتخابات الأوروبية باش تدافع على قضيتك وقضايا أخرى عادلة وإنسانية تهم الناس الكل، من أهمها قضية اللاجئين لكن زادة قضية الهجرة. هذه ريما حسن مسارها لليوم مترشحة للانتخابات الأوروبية على قائمة الحزب اليساري في فرنسا La France Insoumise، حزب تميز بدفاعه على القضية الفلسطينية من اللي بدأت الحرب في 7 أكتوبر، وتميز زادة بالهجومات اللي شنت ضده من اليمين المتطرف وحتى من الإعلام السائد والسلطة. ريما حسن مرحبا.
اهلا، شكرا للعزيمه.
Nous vous invitons aujourd'hui pour parler de votre parcours mais surtout de la cause palestinienne, de la question migratoire y compris les droits des réfugiés. Est-ce que vous condamnez le Hamas?
On va vraiment commencer par ça.
Non, c'était une blague. Mais je veux dire que ces questions répétitives qu'on voit de ce côté de la Méditerranée comme caricatural. En France, comment expliquez-vous tenir autant à se baser sur de tels biais, de tels clichés pour engager un débat sur une question qui relève du colonialisme et qui date de 48, si ce n'est pas avant?
Oui, parce que il y a le cadre opérant, le seul cadre opérant pour parler de la question palestinienne, c'est la colonisation. Et il y a un déni en Occident de cette dimension-là. Il y a une méconnaissance qui est entretenue par ailleurs médiatiquement, politiquement, du sujet palestinien dans sa complexité, c'est-à-dire dans son historique, dans la dimension politique de son existence, de ses revendications. Et effectivement, on en arrive à des situations extrêmement caricaturales et plus que ça, limitées. Moi, je dénonce très souvent la paresse intellectuelle des journalistes, de certains politiques, de d'autres personnalités, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de curiosité ou un travail de fond qui est fait pour poser les termes, les bons termes du débat. Et on passe plus de temps à répondre à cette paresse intellectuelle qu'à en fait à parler du fond.
Mais pensez-vous que c'est réellement de la paresse intellectuelle ou c'est une position en soi? Parfois, quand on ne veut pas savoir, c'est en soi une position. Pensez-vous que ça relève réellement de la paresse intellectuelle ou d'une façon de rejeter la volonté en soi de comprendre?
Non, mais bien sûr que, je veux dire, la question de la paresse intellectuelle, quand on l'embrasse aussi de façon consciente, pour certains aussi de manière un peu inconsciente, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai 2-3 exemples qui m'ont assez frappé ces derniers temps dans les interviews que j'ai données, même à des médias, disons, consensuels, comme Le Monde, etc. C'est une posture, mais qui vient vraiment du rapport que nous avons au peuple colonisé en Occident, un rapport qu'on a avec l'existence de ces peuples à qui on a historiquement nié une parole politique, une existence, des revendications, et qu'on n'a jamais vraiment embrassé dans leur complexité comme étant voilà une société à part entière, comme une nation à part entière. Et sur le palestinien est projeté tous ces relents coloniaux qui viennent aussi du passif historique, mémorial, européen, qui est lié à l'histoire coloniale de ce continent.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que l'analyse que vous venez de dresser est quelque part nuancée par la politique française d'il y a quelques années. On se rappelle que la politique bien ancienne de Gaulle, par exemple, avait une autre attitude, une autre approche de la question palestinienne, mais jusqu'à Chirac et son emblématique ministre des Affaires étrangères de Villepin, la ligne de la France était autre. Même la radicalité des médias, on va dire, dans leur soutien d'Israël, était différente. Depuis le temps, pas mal de choses ont changé, notamment avec le gouvernement Macron. telles que, par exemple, ces déclarations sur la volonté de même criminaliser d'une certaine manière l'antisionisme en disant que l'antisionisme est de l'antisémitisme et que ça, c'est la même chose. Comment vous expliquez ce retournement, ce revirement, alors que le monde devrait avancer vers plus de modernité? Nous assistons à ces positions, pour le moins qu'on puisse dire, choquantes.
C'est l'arrivée de la droite, d'une autre droite, qui est celle de Sarkozy, qui a été un tournant, effectivement, sur la question palestinienne, parce qu'effectivement, Chirac était aussi de la droite, mais il s'inscrivait dans cette tradition de Gaulle, sur un non-alignement, sur une parole politique critique des États-Unis. Et donc, c'était encore incarné, effectivement, jusqu'à Chirac, mais l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en France a marqué véritablement un tournant, un soutien quasi inconditionnel à l'État d'Israël, et donc une invisibilisation du sort palestinien, et donc un effacement de la parole politique française sur ce sujet. Et cet effacement s'est maintenu jusqu'au macronisme. Il y a eu quelques tentatives de la gauche, mais cette gauche que moi j'appelle la gauche coloniale, parce qu'elle est encore dans un déni de ce qu'elle est elle-même. Il y a quand même dans la gauche en France, pas toute la gauche heureusement, mais il y a encore des voix, je veux dire, qui sont extrêmement problématiques. Je vais citer François Hollande, qui a été quand même au pouvoir et qui récemment a donné une interview à France Inter, si je ne me trompe pas. Et il disait, alors qu'on avait passé le cap de plus de 20 000 morts, que c'était des victimes collatérales. Donc, et ça, pourtant, c'est le Parti Socialiste, je veux dire. Donc, on voit bien que gauche ou droite, à partir de ce moment-là, on a eu un basculement s'agissant de l'invisibilisation du sujet palestinien. Et c'est pour ça que je dis très, très souvent dans mes prises de parole que moi, je mène d'abord une bataille de narratif. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de rattraper les décennies de retard que nous avons sur le sujet palestinien. Et je le fais vraiment d'abord sur les termes. Comment on doit raconter la question palestinienne? Et c'est déjà effectivement un énorme combat avant même d'arriver aux perspectives politiques au Parlement européen.
Ce combat, vous le menez depuis des années. Mais aujourd'hui, il change un peu de nature, puisque ce n'est plus un combat que vous menez à travers le centre des réfugiés ou avec votre casquette de militante pro-palestinienne qui revendique le droit international, rappelant aussi que vous êtes juriste spécialiste en droit international. Mais aujourd'hui, il prend une autre dimension, qui est la dimension de l'action politique directe, en étant sur la liste de la France insoumise pour les présidentielles, pour les élections européennes. Pas encore les présidentielles, pas encore. Je pense pas que Monsieur Mélenchon vous laissera faire.
Non, mais c'est même pas ça. C'est que vraiment mon action politique, elle est vraiment sur le droit international. Et c'est vrai que le terrain pour l'incarner et le porter, c'est le Parlement européen. Sur le plan national, il y a d'autres enjeux qui sont importants. Mais c'est vrai que là, sur ce que je veux porter, le terrain politique, c'est le Parlement. Je crois que c'est extrêmement important en ce moment de politiser jusqu'au bout la question de militantisme en solidarité avec la cause palestinienne. Jusqu'à présent, c'était un militantisme qui a souvent été, et c'est extrêmement précieux, dans des bulles en fait d'activisme, d'associations, de terrain, de solidarité avec le peuple palestinien sur différentes dimensions, dimension culturelle, dimension de revendication de droits. Donc il y a vraiment plein de choses qui existent sur le plan national français et même européen, mais c'est plutôt des associations là qui portaient cette question. L'objet de ma candidature, c'est vraiment de dire que nous devons avancer là où les décideurs ont un poids énorme sur la question palestinienne. Et donc, le terrain, effectivement, du Parlement européen est extrêmement précieux. Et la bataille de narratif que je mène, c'est d'assumer jusqu'au bout que la Palestine est un sujet européen. Souvent, j'en rigole parce qu'il y a des gens qui me disent, mais vous n'avez rien à dire sur l'Europe, etc. En fait, bon, déjà, je suis dans un parti qui porte plusieurs combats et on incarne tous à travers nos candidatures un combat qui fait un peu plus l'actualité que d'autres. Et donc, me concernant, c'est la question des droits humains dans laquelle est imbriquée la question palestinienne. Et je réponds de manière très affirmative et avec beaucoup de détermination que la question palestinienne est un sujet européen et je me bats pour faire rentrer cette question, cette affirmation dans le narratif. Et voilà, moi, c'est l'objet vraiment de ma candidature, c'est d'être là où il y a des décisions politiques qui sont prises et c'est en complémentarité en réalité de ce qui est fait sur le terrain dans le milieu associatif militant. Les deux se croisent en réalité, s'entremêlent. Mais jusqu'à présent, on a surtout investi le terrain militant, associatif, etc. On a peu de voix politiques qui ont porté cette question et qui l'ont portée surtout sur le plan européen.
Porter justement cette voix d'un point de vue politique sur le plan européen n'est pas du tout évident dans ce contexte de droitisation de l'Europe, voire d'extrême droitisation de l'Europe. Quel est l'argument ou votre arme préférée pour mener ce combat face à la droitisation de l'Europe? Je veux dire que certains discours en ces temps d'identitarisme deviennent quelque part inaudibles. Comment imposer ces discours, comment les ramener au débat public et comment pouvoir les rendre des questions centrales dans le débat public?
Bah, c'est le référentiel que j'ai et qui est effectivement un cadre difficilement attaquable parce que moi je suis attaquée sur mes origines, je suis attaquée sur mes positions, etc. Mais quand je pose le cadre du droit international qui est mon domaine d'expertise, c'est quand même difficile à démonter. C'est-à-dire que quand on ramène la question des droits du peuple palestinien comme étant des violations avérées, manifestes, documentées sur le plan du droit international, faut être très solide en face pour démonter ces argumentaires. Donc c'est là où on a une bataille politique à gagner. On a d'abord une bataille de narratif, c'est-à-dire comment raconter le sujet palestinien, et ensuite on a une bataille politique qui a pour boussole le droit international. Et ça, à un moment donné, je veux dire, que vous soyez de droite, d'extrême droite, de gauche ou de je ne sais quoi, la France, elle s'est engagée sur un certain nombre de résolutions, sur un certain nombre de conventions internationales. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre les États européens, l'Union européenne, face à ses responsabilités, avec quelque chose qui restera inchangé, quoi, qui est celui qui est figé, qui est celui du droit international. Donc moi, j'essaye vraiment de... C'est ma boussole, je dis souvent que c'est ma boussole et je m'écarte un peu des attaques qui sont plutôt des attaques racistes pour garder vraiment cette boussole et avancer là-dessus.
Pour avancer là-dessus, donc le droit international, vous savez, pour le premier numéro de ce podcast, de l'Ashma Podcast, nous avons invité un professeur en droit international qui a donné une plaidoirie à la Cour internationale de justice au sujet notamment des droits des Palestiniens, etc. Et nous l'avons confronté à un certain scepticisme par rapport au recours au droit international et ce qu'il vaut aujourd'hui. Et grosso modo, bien sûr, c'est un entretien qui a longtemps duré, qui est plein de nuances, mais l'idée centrale était que le droit international, ce qui le fait et défait, c'est l'équilibre des forces.
Tout à
Et
fait.
aujourd'hui, on voit que l'équilibre des forces est profondément déstabilisé. Donc, comment re-ramener ce droit international, ce référentiel-là, à sa force initiale, ou comment en tirer une grande légitimité comme outil politique aujourd'hui?
Je vais être très cash. Il faut décoloniser le droit international. C'est-à-dire que le droit international, c'est un ensemble d'instruments qui ont été pensés et établis dans un cadre. Alors le problème, c'est pas le fond du droit international. Le fond du droit international, il est au contraire, il y a plein de choses à en tirer, notamment pour les droits du peuple palestinien. Mais c'est l'utilisation qui est faite l'effectivité ou la non-effectivité du droit international qui s'inscrit effectivement dans un rapport de force qui bénéficie plutôt aux pays, disons, du Nord. C'est un droit qui a aussi été pensé par eux, souvent pour eux, jusqu'à ce qu'il y ait toutes les luttes pour l'indépendance et l'autodétermination d'un certain nombre de pays dits du Sud global. Et ce qui s'est passé devant la Cour internationale de justice, moi, je trouve que c'est très parlant, c'est-à-dire que c'est la réappropriation de ces outils par les pays dits du Sud, donc l'Afrique du Sud qui se saisit de des instruments internationaux, en l'occurrence la Convention sur la prévention du génocide, pour mettre face à ses responsabilités la communauté internationale sur la situation qui est en cours à Gaza. Et donc, pour moi, il y a un processus de décolonisation qui doit aussi s'opérer sur ces instruments, c'est-à-dire qu'il faut que ces instruments soient autant entre les mains des pays dits du Sud qu'ils n'ont été entre les mains des pays dits du Nord, et que surtout l'effectivité de ce droit international s'applique autant pour ces peuples dits du Sud qui ont historiquement été opprimés, écrasés, non considérés, etc., que pour les pays dits du Nord. Et pour moi, ça, c'est vraiment le processus de décolonisation qui doit aussi s'opérer au sein des instances onusiennes, au sein de... Faut pas oublier, par exemple, que quand il y a eu la création de l'État d'Israël, on parlait déjà de communauté internationale, alors que c'est une trentaine d'États qui ont voté pour la création de l'État d'Israël. Tout le Sud global, la majorité du Sud global, était encore soit sous mandat colonial, soit vraiment en train de vivre une occupation ou une colonisation de peuplement. Et c'est cette arrogance-là coloniale qu'il y a dans les instances internationales qu'il faut défaire et revenir à un rééquilibre entre les droits des peuples du Sud, dont les Palestiniens font partie, et les droits des peuples du Nord qui sont à l'initiative de ces instruments internationaux.
Revenons aux peuples du Sud. En Tunisie, et même ailleurs dans le monde arabe, on évoque très souvent la libération de toute la terre de Palestine, et là on parle de la Palestine mandataire, la Palestine historique, alors qu'à l'échelle internationale, il y a l'opinion favorable à la cause palestinienne, elle se conforme au droit international et revendique la création d'un État palestinien sur la base des frontières de 67. Vous avez une toute autre piste qui, exposée dans la rive nord, n'est pas du tout consensuelle, voire votre vision des choses est très attaquée, mais également dans les pays du Sud, si vous l'exposez, si elle tend à être largement...
Je mets personne d'accord, en fait.
Voilà. Donc, vous revendiquez, en gros, un État binational. C'est la solution que vous exposez, compte tenu du morcellement de la Cisjordanie et de la destruction totale de Gaza. Donc, l'impossibilité d'y vivre. Et donc, la seule solution est que vous proposez, c'est l'État binational, qui est un peu complexe, à vrai dire. Pouvez-vous expliquer un peu pourquoi cette solution et la complexité avec laquelle vous pensez que ça pourrait être mis en place ?
Bon, déjà, il faut dire que ce que je dis n'est rien de révolutionnaire. Arafat en parlait déjà, Edouard Saïd, il parlait d'un État unique, laïque, qui reconnaît en fait les spécificités des uns et des autres, qui reconnaît toutes les religions, etc., etc. Donc c'est rien de révolutionnaire en fait en termes de projection. Moi, ce que je veux surtout éviter, c'est que les Palestiniens finissent dans des enclaves. Donc comme là, ça a été le cas dans la bande de Gaza, je pense que ce qui nous attend en Cisjordanie sera pire que Gaza. Je pense que si on continue dans la logique des deux États, je vais revenir après sur les conditions pour avoir deux États, parce que c'est une vaste supercherie quand même. Mais si on continue dans cette logique-là, donc si on écoute les interlocuteurs internationaux qui se basent sur cette résolution, ils vont projeter un État palestinien sur la Cisjordanie. En Cisjordanie et Jérusalem-Est, il y a déjà 800 000 colons. Les Palestiniens vivent dans des petites des petits territoires où ils sont encerclés par des colonies. On parle d'une peau de léopard pour la Cisjordanie, c'est-à-dire vraiment on a isolé les Palestiniens et on a coupé toute continuité entre les villages. Les Palestiniens sont historiquement très ancrés dans leur village, dans leur terre. Les familles se connaissent, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité entre les familles. Et stratégiquement, les colons israéliens, ils ont coupé toute continuité entre ces villages. Donc, moi, ce que je veux éviter, c'est que les Palestiniens finissent dans des enclaves. Je pense qu'Israël va faire en Cisjordanie ce qu'elle est en train de faire à Gaza si on continue, c'est-à-dire qu'elle finira par trouver de la lutte armée, qui existe déjà par ailleurs, finira par trouver ce prétexte pour dire « il faut bombarder », finira par dire à la Jordanie d'accueillir les Palestiniens de Cisjordanie, comme aujourd'hui elle dit à l'Égypte « vous devez accueillir les Palestiniens de Gaza ». Donc pour moi, il faut déjouer la politique coloniale israélienne en disant, mais en fait, les Palestiniens, ils vivent déjà du Jourdain à la mer. Il faut défendre leur droit absolu de vivre sur toute la Palestine mandataire. Et ce qui permet aussi d'inclure la question des réfugiés. Faut pas oublier qu'on a, enfin, moi, je reproche souvent le fait qu'on ait oublié la question des réfugiés palestiniens. Moi, j'appartiens à ces enfants de la Nakba qui ont été dépossédés de leur terre, qui ont été expulsés. Moi, je viens de villages qui aujourd'hui appartiennent à des territoires israéliens. On n'a jamais été indemnisés pour les terres qu'on a perdues, pour nos maisons qui ont été volées. On n'a jamais pu retrouver cette terre. La condition absolue pour moi pour que les Palestiniens puissent se libérer de cette colonisation, c'est qu'ils puissent, un, tous revenir sur cette terre, parce qu'aujourd'hui, les deux États, on oublie les réfugiés. Hein. C'est 6 millions de personnes qui sont recensées. La Nakba, c'est 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés sur 1,4 million. C'est pour ça qu'on parle de catastrophe. C'est plus de la moitié de la population palestinienne. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on va faire un État palestinien sans la moitié de la famille palestinienne. On peut pas prétendre réunifier une famille quand la moitié de la famille, elle a été expulsée. En l'occurrence.
Et là, vous mettez sur la table la question du droit du retour.
Au retour, qui est la condition pour moi pour penser le peuple, l'avenir du peuple palestinien. Et donc, je termine sur les conditions pour créer un État. On sait que, aujourd'hui, en droit international, pour avoir un État, il faut trois éléments. Il faut un territoire uni. Il n'y a pas de territoire uni. Les Palestiniens, c'est là où il y a le cynisme des Israéliens. Ils ont travaillé dans leur politique de colonisation à la fragmentation du peuple palestinien. C'est-à-dire qu'ils se sont assurés d'avoir un peuple qui vit sur des territoires différents, avec des statuts différents, avec des réalités différentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de connexion entre les Palestiniens qui sont dans les camps, dans les pays frontaliers, entre les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens qui vivent à Jérusalem. Ils ont fait exprès de séparer tout ce peuple parce que c'est beaucoup plus facile de gérer des groupes de Palestiniens avec des réalités d'oppression différentes que d'avoir tout un peuple sur soi à gérer. Et donc, la question de un territoire uni, elle n'est pas remplie. La question d'un peuple unifié, parce que les trois critères pour avoir un État, c'est un territoire uni, un peuple unifié et un gouvernement qui représente ce peuple sur un territoire donné. Peuple uni, c'est pas réuni. Dans la condition de, la condition n'est pas là. Un territoire unifié, non plus. Donc moi, ce qui reste pour les Palestiniens, c'est cette perspective que les Palestiniens puissent vivre partout où ils veulent sur le territoire de toute la Palestine mandataire. Et effectivement, j'intègre, je suis un peu longue, mais la question d'un État binational, parce que moi, fondamentalement, je ne m'oppose pas à ce qu'il y ait un foyer national juif. C'est pas s'il y a des juifs qui veulent rester. Je veux dire, quand l'Algérie s'est libérée, elle a aussi dit aux Français, ceux qui restent là, pas pour nous, nous massacrer, qui vivront là, on est OK pour qu'ils restent. C'est ceux qui veulent continuer à nous coloniser qu'on va expulser et dont on va se désolidariser. Donc la logique, c'est un peu ça, c'est de dire, mais en fait, on peut reconnaître le droit pour certains à rester là et ceux qui ne veulent pas s'en prendre aux Palestiniens. Mais effectivement, la lutte contre ceux qui veulent continuer à nous coloniser, elle doit se poursuivre d'une certaine manière. Et surtout, moi, j'ai très peur que les Palestiniens, si qu'on parle aujourd'hui de plusieurs millions de personnes qui sont de nationalité israélienne, et d'ailleurs, c'est important de rappeler que chez les Israéliens, 20% sont palestiniens. 20% sont la nationalité.
Ce qu'ils appellent les Arabes israéliens. Alors, nous, dans le discours médiatique français.
Nous, on refuse ce terme, nous, on parle de Palestiniens d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ont été naturalisés, c'est vrai, mais par contre, c'est des Palestiniens originellement. Mais, je veux dire, ceux qui veulent rester, c'est pour ça que je parle de l'identité binationale, parce qu'aujourd'hui, il y a des Palestiniens qui vivent avec l'identité, pas identité, mais je veux dire, qui ont les documents de l'autorité israélienne. Moi, j'ai pas envie que les Palestiniens fassent commettre des massacres d'une certaine manière. Je trouve que la dignité de notre peuple, elle repose sur le fait qu'on ne fera pas subir à d'autres ce que nous, nous avons subi. Et il y a chez certains juifs un passif qui est très lourd. Des gens qui ont été massacrés, qui ont été chassés de partout. Et moi, je trouve que l'honneur du peuple palestinien, c'est de dire, mais en fait, nous, on peut être cette terre d'accueil pour des juifs. On peut. Nous, on peut.
Et rappelant que la Palestine historique,
il y a toujours eu des juifs.
A toujours
une communauté juive, des communautés chrétiennes, etc. Donc moi, je m'oppose pas à l'idée que des personnes de confession juive puissent rester et puissent aussi vivre en tant que communauté juive. C'est vraiment la question coloniale qui pose problème.
On parle de Palestine, mais aussi des élections européennes. Les élections européennes et le Parlement européen sont considérés comme responsables d'autres drames, qui est le drame de la migration irrégulière en Méditerranée. Nous avons connu, rien que durant l'année 2023, qui était une année record, plus de 1300 morts dans les côtes tunisiennes, des Tunisiens, mais aussi d'autres migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc cette hécatombe qui est devenue la Méditerranée devrait être un des sujets les plus importants en cas d'élection au Parlement européen. Il y a le Frontex, une militarisation de cette gestion, voire des accords avec des pays du Sud comme la Tunisie, afin qu'ils gardent autrement, les frontières européennes. Qu'est-ce que vous portez comme programme par rapport à cette question migratoire? Nous savons que la France insoumise a toujours plaidé une politique migratoire plus souple, plus inclusive.
Plus humaniste surtout.
Plus humaniste surtout.
Oui.
Aujourd'hui, les politiques de droite se durcissent et imposent peut-être une autre démarche ou une autre façon de les confronter. Qu'est-ce que vous avez prévu dans ce sens?
Alors, donc déjà, pour recontextualiser un peu le contexte, le cadre de la politique européenne en matière de migration, effectivement, il y a eu depuis 2014 30 000 morts en Méditerranée. Il y a récemment le pacte asile-migration qui a été adopté, qui est un pacte qui est extrêmement problématique puisqu'il durcit les conditions effectivement d'entrée, les conditions de dépôt de demande d'asile sur le plan européen. On a toujours le régime Dublin qui ne marche pas, qui est une catastrophe. Donc le régime Dublin, c'est le fait que c'est le premier pays d'arrivée dans lequel vous êtes entré, qui est responsable de votre demande d'asile. On voit bien que ça ne marche pas, puisque généralement, les parcours des personnes exilées traversent plusieurs pays avant d'arriver au pays où il y a, je sais pas, des membres de leur famille, etc., etc. Donc, ce régime est en plus maintenu dans ce pacte asile-migration. L'enjeu pour nous, au Parlement européen, c'est de réussir à avoir des garanties de protection des droits des personnes exilées. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a des risques d'enfermement pour les personnes qui sont mineures aux portes de l'Europe. On sait qu'il va y avoir une généralisation de la mise en camp, c'est-à-dire créer plus de hotspots de camps qui vont détenir des personnes le temps de leur demande d'asile, donc vraiment pour contrôler leur installation, leur arrivée sur le plan européen. Effectivement, il y a de plus en plus d'accords qui sont passés avec des pays aux frontières de l'Union européenne ou qui sont les pays d'arrivée ou de transit avant d'arriver à l'Union européenne pour justement, moyennant de l'argent, on leur demande de faire le boulot de tri ou de répression même à l'endroit des personnes qui sont en situation de migration. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement d'avoir une politique migratoire qui soit beaucoup plus humaniste, qui s'assure que l'Union européenne respecte ses engagements, puisque je rappelle qu'on a ratifié des conventions comme la Convention de Genève de 1951, que la Convention européenne des droits de l'homme offre aussi un certain nombre de respect des droits humains, même pour les personnes qui sont sur le sol européen, qui sont des personnes exilées ou réfugiées. Donc, c'est vraiment de regarder toutes les dérives. En fait, le pacte, c'est un peu nouveau, donc c'est bien qu'on en parle. Il vient d'être adopté. Donc l'objectif pour nous, c'est de s'assurer d'avoir vraiment un travail de surveillance, de veille sur la manière dont ce pacte va être déployé et d'être en alerte sur tous les dispositifs qui vont violer les droits des personnes exilées. Et on veut absolument éviter de se retrouver dans la configuration de Moria, par exemple, les camps de Moria en Grèce, où les gens étaient enfermés pendant plusieurs années sans bénéficier de suites sur leur demande d'asile, etc. Donc tout ça, c'est des violations avérées s'agissant des engagements de l'Union européenne sur les conventions internationales et régionales. Et notre boulot va être vraiment d'être des garants, d'une certaine manière, du respect des droits fondamentaux des personnes en situation d'exil. Et je veux dire un mot sur le fait que là aussi, il y a une bataille de narratif. C'est là où l'extrême droite a malheureusement gagné, c'est-à-dire que l'extrême droite a réussi à faire croire qu'en fait on était envahi, que l'Union européenne portait toute la charge de la question de l'accueil, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, en termes de migrants internationaux, c'est juste le fait de vivre dans un pays qui n'est pas le vôtre. C'est 3 à 3,5% de la population mondiale. Et ces données, ces 20 dernières années, elle n'a pas beaucoup changé. Elle est entre 2,8 et 3,5%. Mais un migrant international, ça peut être aussi un Français qui va s'installer au Sénégal. Mais lui, il aura le bon passeport. Lui, sa migration, ça ne sera jamais un sujet politique.
Lui, il s'appelle expat, pas migrant.
Exactement, mais pourtant, dans les statuts, c'est un migrant. Il est comptabilisé dans les migrants internationaux. Mais il a le bon passeport. Sa migration ne sera jamais un sujet politique. À l'inverse, quelqu'un qui veut venir du Sénégal et qui veut s'installer en France, il va être exposé à un risque de mort, un risque de persécution, un risque de voir ses droits fondamentaux violés. Et sa migration est un sujet politique. Il faut juste bien se resituer que la première réalité de migration à travers le monde, c'est les déplacés internes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne quittent jamais leur pays. L'essentiel de la migration forcée, c'est essentiellement des gens qui vont se déplacer d'une région à une autre. La deuxième réalité de migration, c'est les réfugiés. Les réfugiés, 85% d'entre eux, ils sont accueillis par des pays voisins de leur pays d'origine. Comme par exemple le cas de la Syrie. On sait que la majorité des réfugiés syriens, ils n'ont pas été accueillis par l'Europe. Ils ont été accueillis par la Turquie, par la Syrie, par le Liban, pardon, et par la Jordanie. Et ensuite vient la dernière réalité de migration, qui est la migration sud-nord, mais qui est vraiment minime par rapport aux premières réalités de migration, qui sont d'abord des migrations sud-sud. C'est-à-dire que c'est d'abord des pays de la région d'origine qui absorbent les millions de personnes qui sont en situation de
C'est ce qui se passe notamment en Tunisie actuellement, avec de plus en plus de vagues de migrants subsahariens. Rima Hassan, le temps était court. Oui. Généralement, notre podcast est plus lent. Votre séjour en Tunisie est limité.
Et un peu chargé.
Et un peu chargé, très chargé même. Je vous remercie d'avoir partagé toutes ces idées et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous espérons vous recevoir une nouvelle fois pour plus de temps.
Je reviendrai en octobre pour le festival Jaou, parce que j'ai un projet photo sur les camps palestiniens, donc je serai de retour.
Super. Ça s'appelle comment ce projet photo, si vous pouvez?
Nakba Survivor.
Nakba Survivor.
Voilà, donc je vais dans les
ça
camps.
Ça sera présenté dans le festival Jaou en octobre prochain.
J'aurai une exposition sur des portraits de Palestiniens qui sont dans des camps que j'ai visités, et je repasserai peut-être en août pour des vacances, donc je serai ravie d'en faire une interview avec vous.
Soyez la bienvenue.
Merci.
En tout cas, nous vous souhaitons bon courage. Merci. Pour les élections européennes. Ça sera le 9 juin,
c'est bien ça. Le 9 juin, tout à fait.
Bon courage, Rima Hassan.
Merci beaucoup.
شكرا على المتابعة متاع الحوار هذا، كان قصير مقارنة بحواراتنا في العادة. قضية الفلسطينية، القانون الدولي، الهجرة، مسألة اللجوء، هذا الكل حكينا فيه مع ريما حسن. تنجموا تواصلوا تتبعونا هنا على يوتيوب، لكن زادة على رشمة في فيسبوك، انستغرام، وحتى تيك توك. شكرا مرة أخرى وتخي بيانتو.